10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1 avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Damien Fleureau, Mickaël Darmon.
Bonjour Florence Parly.
Bonjour.
Ravi de vous recevoir pour cette rentrée du grand rendez-vous, car votre parole est rare. Pendant la pandémie, les batailles continuent. Le monde est entré dans une période de confrontation ouverte, de menaces concrètes. Les crises et les zones de conflit se multiplient et la France se retrouve bien souvent engagée en première ligne. Mais tout d'abord, je voudrais vous faire réagir à cette information que vous venez d'entendre, révélée par donc Europe 1. Je la rappelle, un officier français, lieutenant-colonel, en poste auprès de l'OTAN en Italie, a été arrêté il y a une dizaine de jours et mis en examen pour avoir transmis les documents secrets à la Russie. Quelle est votre réaction, Florence Parly, ministre des Armées ?
Ce que je peux dire, c'est que confirmer qu'un officier supérieur est sous le coup d'une procédure judiciaire pour transmission ou atteinte à la sécurité. Et s'il est sous cette procédure judiciaire, c'est parce que le ministère des Armées a pris l'initiative de saisir le procureur de la République en enclenchant ce que l'on appelle un article 40. Donc, c'est à l'initiative du ministère des Armées que cette procédure judiciaire a été initiée. Et maintenant...
De quoi est-il soupçonné pour vous ?
C'est évidemment à la justice maintenant que de l'établir. Ce que je peux dire, c'est que nous avons pris toutes les mesures de sauvegarde qui étaient nécessaires. Et maintenant, il faut que la justice puisse faire son travail dans le respect du secret de l'instruction.
Alors, on peut se poser aussi la question des motivations. Encore une seconde, est-ce qu'il n'y a pas, au fond, parfois une fascination d'une partie de l'armée française pour la Russie, pour Poutine, considérée comme dépositaire des valeurs occidentales, chrétiennes, face à la Turquie ?
Oui, je n'ai rien de plus à déclarer, parce que là, vous êtes en train d'enfourcher une hypothèse.
Je pose une question.
D'enfourcher une hypothèse que seule la justice pourra infirmer ou confirmer. Donc, je ne commenterai pas les agissements de cet officier supérieur. Encore une fois, le ministère des Armées a pris l'initiative et maintenant, c'est à la justice de dire de quoi il est coupable.
D'accord.
S'il est coupable.
Dernière question, vous confirmez que c'est la France qui a repéré ses activités, non pas les partenaires, les Italiens?
C'est la France qui a pris l'initiative de cette procédure judiciaire.
Alors, on revient aussi donc aux questions d'actualité, pour reprendre un peu votre formule. Les menaces ne se sont pas reposées et le virus non plus. Damien Fleureau.
Oui, la Covid-19 et ses conséquences sur notre armée, Madame la Ministre, notre armée impliquée directement dans la gestion de la crise, avec notamment la mise en place de l'hôpital de campagne à Mulhouse. Écoutez ce sergent, Olivier, il est membre du régiment médical des armées au camp de Lavalbonne.
C'est une mission exceptionnelle de venir en aide notamment à la population française. Et puis on se sent encore beaucoup plus utile. Et encore une fois, ma fierté pour mon métier. Quoi.
Une question d'abord très directe. Combien de soldats sont aujourd'hui atteints par la Covid-19 à ce jour ?
Aujourd'hui, nous avons une situation qui est extrêmement stabilisée, puisque nous n'avons pas de malades avérés. Nous avons développé une politique de test extrêmement dynamique, comme pour le reste de la population. Donc nous avons quelques cas qui ont été testés positifs. Et comme c'est le cas pour le reste de la population française, eh bien, nous testons, nous traçons et nous isolons.
Un protocole sanitaire peut-être encore plus réglementé, encore...
Alors c'est un protocole sanitaire qui respecte très strictement les règles qui ont été édictées par le gouvernement et les autorités sanitaires. Par exemple, le port du masque est obligatoire. Nous avons même été au-delà puisque nous incitons nos personnels, qu'ils soient militaires ou civils, qui ont pris des permissions ou des vacances pendant l'été, nous les incitons à se tester. Nous avons même mis en place un dispositif de test à l'entrée du ministère à Ballard pour que chacun puisse lever un éventuel doute qui pourrait être lié à un certain relâchement qui aurait pu intervenir pendant les vacances. Et donc, au-delà de cela... nous appliquons bien sûr très strictement les directives gouvernementales Et nous sommes amenés, évidemment, à faire très très attention dans le cadre des projections que nous faisons de nos militaires à l'extérieur, sur les théâtres d'opérations extérieures. Et puis lorsque les marins, évidemment, embarquent sur des bateaux.
Alors bien sûr, on va évoquer bien sûr le Charles de Gaulle dans quelques instants, mais au fond, on se pose la question, comment on fait pour s'entraîner, pour être dans les stages commando, dans la promiscuité qui est celle, au fond, dans les bases, dans les entraînements, dans le corps à corps. Comment on fait ?
Alors, il y a différents cas de figure, ce que vous venez de mentionner. Et il y a évidemment un cas de figure très particulier qui est celui de l'entraînement, la préparation opérationnelle au combat. Et lorsqu'il y a des entraînements qui se font au combat, y compris au corps à corps, la distanciation physique n'est évidemment pas possible. Le port du masque n'est pas possible et c'est un cas de figure qui a été prévu par le décret de sortie de l'urgence du confinement et de l'urgence sanitaire et qui prévoit que dans le domaine très particulier des sports de combat, eh bien, il puisse y avoir une dérogation. Mais pour tout le reste, nous appliquons extrêmement strictement les consignes sanitaires, en particulier dans tous les espaces de vie et d'hébergement, puisque beaucoup de nos militaires vivent dans les casernes et dans leurs unités. Donc non seulement ils y travaillent, mais ils y vivent en collectivité. Et il faut donc que toutes les mesures, gestes barrières comme port du masque, puissent être mises en œuvre conformément à la politique sanitaire gouvernementale.
On continue là-dessus, Nicolas Barré.
Oui, on se souvient de ce qui s'est passé sur le Charles de Gaulle. Quelles leçons en avez-vous tirées ? Je crois que vous allez d'ailleurs bientôt à Toulon où il est en arrêt technique. Quelles leçons en avez-vous tirées de cette affaire ?
Beaucoup de leçons. Leçons d'abord sur le plan sanitaire et épidémiologique, puisque nous avons fait une étude sur 1600 marins, ce qui nous a, et surtout a procuré à la communauté scientifique, beaucoup d'informations sur la manière dont ce virus touche les populations. Et puis nous en avons tiré des enseignements pratiques sur la manière dont il faut se comporter à bord d'un navire qui est particulier. C'est un navire de génération ancienne où les lieux de vie peuvent concentrer un nombre très important de personnel, ce qui est moins le cas dans les navires de génération plus moderne. Et donc, dans le cadre de cet arrêt technique qui a eu lieu pendant l'été, eh bien, nous avons profité de cette immobilisation pour accomplir un certain nombre de travaux. Alors bien sûr, on ne peut pas changer fondamentalement la physionomie du Charles de Gaulle, mais on peut améliorer la sécurité sanitaire à bord, et c'est ce que nous avons fait.
Et il repart quand ?
Il repart début septembre, et je serai mardi à Toulon pour lancer cette nouvelle phase de opérationnelle pour le Charles de Gaulle.
Daniel Fleurot.
Est-ce que l'opération Résilience, mise en place pour gérer cette crise de la Covid-19 avec l'armée, peut être réactivée ou activée à un niveau supérieur avec peut-être la deuxième vague qui arrive ? Vous aviez dit, l'armée peut faire plus.
Nous restons totalement flexibles. Cette opération Résilience, qui a été voulue par le président de la République dès le début de la pandémie, est une opération qui montait extrêmement rapidement en puissance. Vous vous en souvenez, nous avons fait beaucoup d'évacuations sanitaires au début, puis ensuite nous sommes adaptés aux besoins qui s'exprimaient, notamment tout ce qui concernait le transport logistique, l'approvisionnement, la sécurisation
flexible,
des approvisionnements.
Mais pas de montée en charge.
Donc flexible, et nous pouvons évidemment remonter en charge. Nous avons réduit petit à petit nos interventions. Aujourd'hui, les interventions de résilience sont très modérées, modestes, mais nous sommes prêts à redémarrer si, bien entendu, le besoin s'en fait sentir.
Plus, vous êtes un peu déçu du fait qu'on ne vous sollicite pas assez ?
Nous voulions simplement signifier, je crois que ce que le sergent disait tout à l'heure le montre bien, c'est que nos armées, nos militaires sont au service de la protection des Français dans toutes ses dimensions. Alors on a l'habitude de penser à la protection contre le terrorisme, mais la protection sanitaire fait aussi partie, et l'opération Résilience l'a montré, capacités que nous pouvons déployer avec les moyens dont nous disposons naturellement. Et c'est pour cela que nous nous sommes mis à la disposition des préfets et que ce sont les préfets qui nous sollicitent en fonction des besoins qu'ils ont éprouvés et qu'ils éprouveront peut-être, je l'espère, le moins possible dans le futur.
Alors, rapidement, Nicolas Barré.
L'autre opération majeure en cours, évidemment, c'est l'opération Amitié d'aide au Liban, avec notamment le porte-hélicoptère amphibie Tonnerre, qui est sur place depuis le 14 août, avec 750 hommes. Au-delà de l'urgence, on voit bien que le chantier est titanesque, hein, de reconstruction du port de Beyrouth. Au-delà de l'urgence, qu'est-ce que peut faire la France dans cette affaire?
Tout d'abord, il faut continuer à gérer l'urgence. Et c'est pourquoi, dès le lendemain de l'explosion dramatique qui a dévasté le port de Beyrouth et une partie de la ville, un pont aérien a été mis en place à la demande du président de la République. Nous avons fait plus de 10 vols qui ont été ensuite complétés par du transport maritime. Des cargos ont été affrétés, notamment par le ministère des Armées. Un cargo arrivera à Beyrouth dans les prochaines heures, hein, pour transporter du matériel non seulement du matériel médical, de secours, mais aussi du matériaux de reconstruction, de l'aide alimentaire. Et pour ce qui nous concerne, nous, ministère des Armées, nous avons déployé sur le port de Beyrouth des moyens lourds du génie, parce que cette explosion a dévasté des quais du port, a dévasté de très nombreux hangars de fret. Et par conséquent, ce port qui constitue le poumon économique du Liban, puisque 70% de l'activité économique passe par le port de Beyrouth, eh bien ce port doit pouvoir être déblayé. Et c'est ce que nos hommes du génie, le régiment du génie qui est sur place, réalisent depuis le 14 août. Alors au départ, il a travaillé sur une petite zone, hein, puisqu'il y avait encore des recherches menées par l'enquête libanaise. Il n'a pas perdu son temps, puisque pendant ce temps-là, il a contribué au déblaiement de la gare routière, de certaines écoles qui avaient été elles aussi dévastées. Et puis, désormais, il s'est reconcentré sur le déblaiement à la fois en surface et sous-marin, parce que une partie importante du quai s'est effondrée et aurait pu, si on n'y avait pas remédié, bloquer l'accès des navires jusqu'au quai.
Florence Parly, on va continuer à parler donc de la situation au Liban dans quelques instants. On se retrouve tout de suite.
10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1 avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Damien Fleureau, Mickaël Darmon.
Et on se retrouve avec Florence Parly, donc ministre des Armées, alors que les crises, les zones de conflit se multiplient partout dans le monde. Mardi, le président de la République sera à Beyrouth, comme il avait promis.
Aujourd'hui, demain, nous serons là et la France ne lâchera jamais le Liban.
Alors Florence Parly, le président de la République donc sera à Beyrouth mardi. Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères, a dit que le Liban peut disparaître et s'effondrer, rongé par la corruption et la crise économique. On voit bien que l'État libanais se délite. Au fond, qui contrôle le Liban aujourd'hui?
C'est une très bonne question. En tout cas, il y a une aspiration très forte des Libanais à ce que cette situation de délitement qui n'a pas démarré avec cette explosion, mais qui est bien antérieure et qui a été amplifiée par une crise économique violente, une crise bancaire qui conduit cet État à être un État failli, plus une crise sanitaire dont on voit qu'elle redémarre avec énormément de virulence depuis quelques jours. Donc tout cela met ce pays à genoux. Et l'explosion qui s'est produite dans le port de Beyrouth est venue amplifier encore la détresse des Libanais. Et ce que j'ai perçu lorsque je m'y suis rendue quelques jours après la visite du président de la République, qui était sur place moins de 48 heures avant, après cette explosion, c'est au fond un immense ras-le-bol de la population et une exigence de la population vis-à-vis de la communauté internationale, c'est que celle-ci soit elle-même exigeante vis-à-vis des autorités libanaises, parce que on sait ce qu'il faut faire au Liban. On sait depuis des années qu'il y a des réformes qui doivent être mises en place. Il y a des réformes qui doivent être mises en œuvre dans le domaine des marchés publics, parce que je crois que ce n'est pas un gros mot que de dire que l'économie libanaise est rongée par la corruption. Il y a des réformes à mettre en place dans le système bancaire qui était attendu par les organisations internationales, le FMI, la Banque mondiale, qui étaient prêtes avant cette explosion à aider le Liban, fait, à condition que ces réformes soient mises en œuvre.
Alors à quoi ça sert d'y retourner 15 jours plus tard, puisque tous ces processus prennent du temps?
Tout d'abord, si je puis me permettre, le président de la République y retourne pour d'abord constater les effets de l'aide que notre pays a apportée. Et en particulier, mais pas seulement, il va passer du temps avec nos militaires qui sont déployés sur place pour apprécier l'importance des travaux qui ont été réalisés, mesurer aussi sans doute l'ampleur de ce qui reste à faire, s'assurer que l'aide que nous avons apportée est bien distribuée à ceux qui en ont besoin, c'est-à-dire la population libanaise. Et de ce point de vue, tout se passe en face de la résidence de l'ambassadeur de France. Tout est stocké en face de la résidence de l'ambassadeur de France. Et nous veillons à ce que ce soit les opérateurs locaux qui en ont besoin, qui soient les bénéficiaires de cette aide, parce qu'elle doit aller aux populations. Et puis, bien sûr, il poursuivra son dialogue politique avec les autorités du pays. Depuis sa visite, le gouvernement a démissionné. Le président de la République, selon les règles constitutionnelles libanaises, est chargé d'enclencher des consultations.
Il tarde encore à le faire. Vous le pressez de le faire?
Et je ne doute pas que le président de la République mettra toute la pression qu'il sait mettre pour accélérer ce processus et permettre au Liban d'accéder à une stabilité, aux réformes dont il a besoin, parce que sans quoi, alors, oui, en effet, c'est un pays failli, c'est un pays qui peut disparaître.
Alors Florence Parly, vous avez choisi de dire les choses comme elles sont aujourd'hui. Vous avez parlé effectivement là sans embâge d'un Liban, l'économie corrompue. Il y a un autre fait qu'il faut regarder en face, c'est le Hezbollah. Il est très implanté donc au Liban, il est incontournable. Est-ce que la France doit dialoguer avec lui? Est-ce qu'il faut dialoguer avec le Hezbollah pour faire en sorte que le Liban ne s'effondre pas?
Mais vous savez, le Hezbollah, c'est un parti politique. Il a des députés au Parlement libanais. Ça fait partie des forces politiques comme les autres, pour la dimension politique du Hezbollah. Je ne parle pas de la dimension militaire, armée.
Oui, parce que vous
savez, le Hezbollah est un parti politique qui a des représentants
soumis à discussion, à controverse même.
Certes, mais il a des représentants au Parlement libanais. Et c'est pour cette raison qu'il est partie prenante du dialogue que le président de la République, Aoun, doit engager pour permettre au Liban d'avoir le plus rapidement possible un gouvernement, et un gouvernement dont la mission sera de mener ces réformes qui n'ont pas été menées jusqu'à présent.
Est-ce que la France a un plan de sortie de crise à proposer au Liban? Est-ce qu'il faut sécuriser le Liban? Est-ce qu'il faut, au-delà des déclarations permanentes d'amitié et de préoccupation, est-ce qu'il faut plus concrètement, politiquement, peut-être militairement, aider le Liban?
La France aide, je crois, beaucoup le Liban. Le président de la République a également mobilisé toute la communauté internationale quelques jours après cette explosion pour venir en soutien du peuple libanais après cette dramatique explosion. Et puis par ailleurs, rien ne serait pire que de laisser l'ensemble des puissances étrangères et des puissances régionales s'emparer de ce pays qui, rappelons-le, est un pays dans lequel la diversité culturelle, la tolérance religieuse constituent des exceptions dans un Moyen-Orient qui est traversé par les crises.
Madame Floro.
Autre zone de tension en Méditerranée, au large de la Grèce et de la Turquie. Question simple, Florence Parly, est-ce qu'il y a un risque d'escalade militaire entre Ankara et Athènes? La France engage des moyens sur place.
Il y a de très fortes tensions en Méditerranée orientale, très fortes tensions qui sont liées à un comportement de la Turquie qu'on peut qualifier en effet d'escalatoire, puisque la Turquie conteste l'existence de zones économiques exclusives. La Turquie met en cause la souveraineté de deux États membres de l'Union européenne. Je veux parler de Chypre et de la Grèce. Et la Turquie met potentiellement en danger un droit fondamental qui est la liberté de navigation. Bien. Donc, la démarche de la France, elle n'est nullement escalatoire. Ce que nous avons fait, c'est ce que nous faisons régulièrement. C'est-à-dire que nous naviguons régulièrement en mer Méditerranée. C'est tout de même un espace dans lequel, un espace naturel, si je puis dire, pour notre pays. Nous y naviguons d'autant plus régulièrement que nous avons une frégate qui est en permanence dans cette zone de la Méditerranée orientale dans le cadre des opérations de la coalition internationale contre Daesh, donc dans le canal de Syrie. Nous y naviguons régulièrement, on parlait du porte-hélicoptère, le Tonnerre qui a fait route vers Beyrouth au mois d'août. Eh bien, nous avons profité de ce moment pour faire un bout de route, si je puis dire, avec deux frégates grecques et une frégate française, celle qui se trouvait dans le canal de Syrie. Bref, nous avons une grande habitude de présence maritime avec des navires militaires dans la zone. Et pour ce qui concerne l'exercice que nous avons réalisé récemment avec d'autres partenaires, l'Italie, la Grèce et Chypre. Ce sont des exercices que nous menons également de façon plus ou moins régulière. Celui-ci était programmé de longue date et il n'a pas vocation à être escalatoire.
Mais pour aller un peu plus loin, est-ce qu'il y a un risque de guerre chaude? Est-ce que c'est un scénario envisageable pour
Parce que les propos du président turc sont quand même très forts. La ruine pour la Grèce, jamais je ne laisserai, jamais je ne renoncerai. La France a été approchée de manière plus ou moins agressive cet été avec justement la frégate. Qu'est-ce que vous analysez là-dessus ?
Il est très important, je crois, de mettre un terme à ces tensions, mais je ne crois pas que cela soit en remettant en cause ce qui constitue des droits reconnus par la communauté internationale. Il y a un droit de navigation dans les eaux de la Méditerranée. Il n'y a pas de droit d'accaparement de ressources énergétiques et gazières, surtout lorsque celles-ci ont été reconnues conformément aux traités internationaux. Donc, il me semble qu'il faut faire deux choses. Il faut faire tout simplement respecter ce que sont ces droits reconnus internationalement et par ailleurs, bien sûr, dialoguer avec la Turquie, et c'est ce que, d'ailleurs, le dialogue ne s'est jamais interrompu avec ce pays. Je pense que peu de chefs d'État ont autant de conversations, d'échanges que le président Macron avec le président de la Turquie. Oui, moi-même, j'ai des échanges avec mon homologue et l'Allemagne, puisque la Turquie a été un des sujets d'échange entre le président Macron et la chancelière Merkel récemment. L'Allemagne est en charge d'une mission de médiation et cette mission de médiation, naturellement, nous la soutenons. Mais je crois qu'il faut quand même bien comprendre que ce n'est pas la France qui a un problème avec la Turquie.
Non, mais c'est la France qui est seule aujourd'hui, parce que l'Allemagne, elle veut négocier, l'Europe regarde, et au fond,
le projet politique du
président Erdogan, personne n'arrive à le contrer.
La France n'est pas seule, ça je peux en témoigner. Nous avons eu des échanges dans le cadre d'une session il y a quelques semaines de l'OTAN. Je peux vous dire que j'ai eu le soutien de bon nombre de nos partenaires européens, mais ce qui est important...
L'OTAN s'est réveillé, il n'est plus en mort cérébrale, ça y est.
Ce qui est important, c'est que nos partenaires européens soient bien associés à cette initiative et ce dialogue que nous voulons avoir avec la Turquie. Mais pour dialoguer, il faut cesser d'être dans l'escalade.
On se retrouve justement parce que l'escalade, il y en a un peu partout. À très vite.
10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1 avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Damien Fleurot, Mickaël Darmon.
Et notre invité Florence Parly, ministre des Armées, Damien Fleurot.
Oui, on continue de parler de ces manœuvres navales rivales entre Ankara et Athènes avec les États-Unis du côté des Turcs, la marine française du côté des Grecs. Quelles conséquences pour l'OTAN, cette alliance en état de mort cérébrale, disait Emmanuel Macron ?
La France a fait des propositions à l'OTAN à la suite de ces incidents qui ont eu lieu au mois de juin. Et nous espérons bien que ces propositions soient discuté prochainement par les ministres de la Défense de l'OTAN. En tout cas, c'est ce à quoi nous nous employons. Ce sont des propositions qui sont extrêmement pragmatiques parce que nous considérons que nous sommes dans une alliance et que nous devons tous nous comporter comme des alliés et de bons alliés. Donc aujourd'hui, la Turquie est membre de l'OTAN, mais force est de constater que le comportement de la Turquie n'est pas le comportement d'un allié, d'un bon allié. Donc je crois qu'il est important pour cette alliance, qui est confrontés par ailleurs à beaucoup de défis, de pouvoir préserver des modes de fonctionnement internes qui lui donnent, lui permettent de jouer son rôle. La France est un bon allié et elle souhaite le rester.
Ah, juste pour terminer sur ce sujet, avant de passer, parce qu'il y a tellement d'autres sujets chauds hein, sur votre secteur. Au fond, on voit que le président Erdogan est engagé dans plusieurs conflits en même temps, sur plusieurs fronts, que ce soit en Syrie, avec les Kurdes, en Méditerranée, en Libye. Et on a le sentiment que personne ne peut s'opposer ou contrecarrer son projet politique.
Le président turc a ses propres échéances, il a ses propres contraintes de politique intérieure, il a un projet, on le connaît, c'est un projet nationaliste. Et je crois donc que pour cette raison, il est important que nous, les Européens, nous puissions trouver la voie d'un dialogue. Mais encore une fois, dialoguer, ça ne signifie pas renoncer à faire prévaloir un certain nombre de règles qui sont à la base des relations internationales.
Nicolas Barré.
Alors, autre point chaud, au Mali, naturellement, où un coup d'État mené par une junte militaire a déposé le président Ibeka. Pour vous, d'abord, quelles conséquences est-ce que ça peut avoir sur notre présence militaire avec la force Barkhane au Mali, qui tente de stabiliser la situation face aux djihadistes? Est-ce que la nouvelle junte au pouvoir à Bamako a demandé à la France de poursuivre ces opérations?
Et est-ce que la France demande le retour du président Keïta?
Alors tout d'abord, la France a fermement condamné ce coup d'État. Nous voyons bien que la situation politique, économique, sociale au Mali était devenue très difficile au cours de ces derniers mois. Mais on ne règle pas les problèmes en faisant des coups d'État. Et les militaires ne sont pas là pour faire des coups d'État. Donc nous avons fermement condamné ce coup d'État. Cette junte a exprimé dans ses premières déclarations son intention de poursuivre le combat contre le terrorisme dans lequel les forces armées maliennes sont engagées depuis maintenant plusieurs années et de le faire en respectant tous les engagements qui ont été pris vis-à-vis de la communauté internationale qui, elle aussi, s'est engagée aux côtés du Mali. Bien. Donc aujourd'hui, ce que l'on peut dire, aujourd'hui, au moment où je parle, c'est que ces engagements restent tenus. Mais il est évident que s'il n'y a pas une transition rapide et que ces militaires qui ont pris le pouvoir ne remettent pas le pouvoir à des autorités civiles...
Ça veut dire quoi, rapide?
Rapide, combien le plus rapidement possible.
Parce qu'ils veulent 3 ans.
Trois ans, c'est hors de propos. Et d'ailleurs, les États d'Afrique de l'Ouest qui sont engagés dans une médiation avec le Mali l'ont clairement exprimé et nous soutenons cette médiation.
Ah, vous préférez donc, combien de temps alors? Vous dites combien de temps? 6 mois?
C'est une affaire de mois. Bien. Donc, il faut que cette transition se fasse rapidement, que une personnalité ou des personnalités civiles soient désignées pour assurer cette transition et permettre l'organisation d'élections conformément au cadre institutionnel malien. Bien. Car si cela ne se faisait pas, alors le risque, eh bien, c'est que tout cela profite d'abord aux terroristes, parce que les terroristes se nourrissent de la faiblesse des États, et l'État malien est faible, et très faible en ce moment. Et puis, par ailleurs, la communauté internationale qui s'est engagée aux côtés du Sahel et du Mali en particulier pourrait s'interroger, se poser des questions. C'est pour ça d'ailleurs que une des premières choses que nous avons faites moi-même, Jean-Yves Le Drian, c'est bien sûr d'entrer en contact avec tous nos partenaires qui sont aux côtés du Sahel pour les rassurer, plus exactement leur faire un point de la situation et nous assurer que ces partenaires restent à nos côtés dès lors que cette transition a lieu rapidement. C'est une condition indispensable.
La situation au Mali est complexe, mais on a vu une montée du sentiment anti-français là-bas. Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète pour la pérennité de notre présence?
C'est un sentiment qui a pu s'exprimer à différents moments. au cours des derniers mois, ce n'était pas le cas. À ma connaissance, ce n'est pas le cas en ce moment, mais nous devons évidemment être très attentifs. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que ce qui me paraît essentiel, c'est que cet engagement dans la lutte contre le terrorisme, c'est un engagement au profit, bien sûr, de la sécurité du peuple malien. C'est aussi un engagement pour la sécurité des Européens. Et c'est pour ça qu'il me paraît devoir être poursuivi. Et c'est pour ça qu'il me paraît essentiel que cette dynamique que l'on a vue au fil des mois se concrétiser avec des groupes terroristes qui subissent une pression de plus en plus forte, en particulier dans cette zone qui est à la frontière du Mali, du Burkina Faso et du Niger, où c'est la filiale, si je puis dire, de Daesh qui maîtrise cette région. Donc ces groupes terroristes subissent une très forte pression. Les forces armées maliennes, au cours des derniers mois, n'ont cessé de monter en puissance, d'être engagées dans des opérations à la fois de plus en plus nombreuses et de plus en plus exigeantes.
Donc la force française Barkhane, 5000 hommes sur le terrain,
va
continuer à travailler avec la junte militaire actuelle, c'est ça ?
Nous continuons à travailler avec les forces armées maliennes qui sont à nos côtés et qui
donc
y sont restées.
Militaire.
Et nous continuons à travailler. Les forces armées maliennes avec lesquelles nous travaillons n'ont nullement été, enfin les chefs militaires avec lesquels nous travaillons sur le terrain ne sont pas ceux qui sont à Bamako. Mais ce qui n'empêche pas, bien entendu, de vouloir absolument préserver les conditions de cette intervention. Mais surtout, je voudrais dire qu'un des succès sur lequel nous devons encore continuer de travailler, c'est le fait que nous avons 18 partenaires à nos côtés au Sahel. Moi, je vais avoir une conférence téléphonique cette semaine avec ces 18 partenaires qui sont engagés au Mali. Donc, ceci montre bien que cette dynamique que le président de la République a relancée en début de l'année à Pau, elle est à l'œuvre. Alors, bien sûr, au Mali, on voudrait que les choses aillent plus vite, on voudrait que les choses aillent mieux. On voudrait que les forces soient encore plus engagées et personne n'a voulu, évidemment, n'a imaginé et donc n'a souhaité qu'une pareille crise politique ne s'ouvre dans ce pays. On a besoin de pouvoir continuer la lutte contre le terrorisme parce que le terrorisme au Sahel n'est pas éradiqué.
On suivra bien entendu ce dossier très important. Nicolas Barré.
Le sujet à la fois économique et stratégique, Dassault Aviation s'inquiète parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de commandes de Rafale depuis le début de l'année, il n'y en a même eu aucune. Un certain nombre de voix se sont élevées, dont deux députés qui ont fait un rapport cet été pour demander que, dans le cadre du plan de relance, les armées achètent 20 Rafales pour combler en quelque sorte le trou à l'exportation. Qu'est-ce que vous répondez à ça ?
Moi, je voudrais répondre deux choses. D'abord, le ministère des Armées n'a pas attendu le plan de relance qui sera présenté cette semaine pour commencer d'agir, parce que le plan de relance du ministère des Armées, ça s'appelle la loi de programmation militaire. Il y a 180 milliards d'euros d'investissements qui sont prévus dans cette loi de programmation militaire. Et le ministère des Armées, comme vous le savez, est le premier investisseur de l'État. Donc, avec ces 16 milliards d'euros que nous avons chaque année pour faire des investissements, évidemment, la priorité, c'est de répondre aux besoins des forces. Et ça, nous le faisons, car cette loi de programmation militaire, c'est une loi de remontée en puissance de nos armées. Et nous le faisons aussi en tenant compte du contexte économique dans lequel nous sommes et du besoin de soutenir et de relancer nos industries de défense. Pourquoi ? Parce que les industries de défense correspondent exactement à la cible que nous visons dans le cadre de ces mesures de relance. Ce sont des industries qui sont nationales. Lorsqu'on dépense 1 euro en investissement de défense, on le dépense en France pour des emplois français et dispersés sur l'ensemble du territoire français. Et donc nous avons d'abord décidé d'un plan de soutien spécifique au secteur de l'aéronautique. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons anticipé un certain nombre de commandes et croyez-moi, ces commandes, elles ont un impact extrêmement fort. J'y viens, je n'oublie pas le Rafale.
Oui, parce qu'il faut qu'on aille sur la
Ces commandes ont un impact extrêmement fort pour des entreprises qui sont en Pyrénées-Atlantique, qui sont dans les Bouches-du-Rhône, etc., etc. J'irai à Aix-en-Provence cette semaine pour voir une entreprise à qui nous avons commandé, dans le cadre de ce plan de soutien, des drones marins. Bien. Et puis, bien sûr, il y a le Rafale. Rafale, c'est un outil majeur pour notre outil de défense. C'est un outil qui est au cœur de nos capacités les plus enviées dans le monde. D'ailleurs, c'est un avion qui s'exporte désormais. Et nous avons commandé, dans le cadre de la loi de programmation militaire, d'ores et déjà 28 Rafales qui seront livrées entre 2022 et 2024. Ouais. Et par ailleurs, il est prévu, dans cette loi de programmation militaire, que nous commandions 30 Rafales supplémentaires. Ces 30 Rafales, nous allons les commander et nous allons voir comment nous pouvons adapter le mieux possible le calendrier de ces commandes afin que, bien sûr, les chaînes de production de Dassault Aviation soient préservées, qu'il n'y ait pas d'interruption dans ces chaînes de production. Mais il faut aussi savoir que ces chaînes de production, aujourd'hui, elles tournent pour l'exportation parce que le Rafale a des clients à l'étranger. Donc nous allons, en lien naturellement avec l'entreprise Dassault, nous allons étudier, nous sommes en train d'étudier le meilleur moment pour lancer ces commandes, pour assurer non seulement la continuité des activités de l'entreprise Dassault, mais aussi de tous ses sous-traitants qui sont derrière, et Dieu sait s'ils sont nombreux. Il y a de très petites entreprises, parfois, qui détiennent des parcelles de la souveraineté de notre pays. Et c'est aussi à elles, bien sûr, qu'il faut veiller.
Très bien. Écoutez, on se retrouve dans quelques instants parce que l'armée s'est trouvée un nouvel espace.
10h, 11h, le grand rendez-vous européen avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Damien Fleureau, Mickaël Darmon.
Et l'on retrouve pour la dernière partie de cette émission Florence Parly, ministre des Armées. En fait, le nouveau monde, ce n'est pas une formule hein, pour vous, pour l'armée en tout cas, parce qu'il existe bien. Cet été, il y a une transformation majeure au sein de l'armée de l'air. L'état-major de l'armée de l'air est devenu état-major de l'air et de l'espace. L'armée française a officialisé l'espace comme terrain stratégique. D'ailleurs, un nouvel insigne de cette armée va être diffusé cette semaine. Ça veut dire qu'on rentre dans l'ère de la guerre des étoiles ?
Disons que nous prenons acte du fait que l'espace, le milieu spatial, est désormais devenu potentiellement, en tout cas, un espace de confrontation.
Et de lutte sauvage, vous dites
mon
même.
Mon devoir...
Vous dites même, il faut éviter que ça soit un théâtre de lutte sauvage.
C'est d'assurer la protection des Français. Or, l'espace est devenu majeur à la fois pour la vie quotidienne de nos concitoyens. Nous utilisons tous entre 20 et 40 applications chaque jour sur nos smartphones qui nécessitent de recourir aux satellites de télécommunication. Et pour ce qui concerne nos armées, nous sommes aussi très dépendants de l'espace pour la conduite de nos opérations. Donc, préserver la capacité à utiliser les moyens qui se trouvent dans l'espace est absolument majeur pour la vie de nos concitoyens comme pour le bon fonctionnement de nos armées. Et donc, nous avons été, si je puis dire, réveillés, comme diraient les Américains, par le fait que nous avons été l'objet d'une manœuvre d'approche qui n'était pas amicale d'un de nos satellites. Et c'est à partir de là...
Par qui ?
Par un satellite russe. Et c'est à partir de là que nous avons, à la demande du président de la République, défini une stratégie de défense spatiale dans le domaine militaire qui consiste à la fois à indiquer que d'abord nous sommes capables de nous défendre, de nous protéger et que nous serons capables d'assurer la protection de l'ensemble de nos moyens, y compris lorsque nous sommes attaqués.
En fait, pour bien comprendre, et avec Damien Fleureau, on va le poursuivre, on passe de la compétition à la confrontation, c'est cela ?
L'objectif de la France n'est nullement de contribuer à une confrontation. L'objectif de notre pays, c'est de préserver toutes ses capacités dans le domaine spatial.
Damien Fleureau.
Mais justement, Florence Parly, vous parlez de compétition et de confrontation à éviter. La Chine qui lance une sonde pour Mars en juillet, les Émirats arabes unis aussi, l'Inde capable de son côté d'abattre un missile depuis l'espace. Vous avez parlé de cette tentative d'espionnage de la Russie près de notre satellite, c'était en 2018. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut faire face en France, face à ces puissances mondiales qui avancent dans l'espace ?
Eh bien, c'est pour cela que nous avons non seulement défini une stratégie, mais que nous l'avons complétée par des investissements majeurs dans le domaine spatial, dont la loi de programmation militaire est porteuse.
Il va y avoir des vaisseaux militaires français.
Nous avons prévu de renouveler la totalité de nos moyens spatiaux dans la période de cette loi de programmation militaire, qu'il s'agisse des satellites, qu'il s'agisse des moyens d'observation radar. Et nous avons même accru, si je puis dire, les investissements en question. Nous avions prévu 3,6 milliards, nous avons rajouté 700 millions d'euros pour faire plus et faire mieux. Et puis, nous avons aussi décidé de nous organiser différemment parce qu'il y a beaucoup de compétences en matière spatiale dans nos armées qui étaient diffuses, qui étaient réparties. Et nous avons voulu les regrouper pour en faire vraiment un outil au service de cette stratégie de défense spatiale. Et nous avons créé ce grand commandement de l'espace qui est désormais installé à Toulouse et qui va donc associer toutes les compétences dont nous disposons en matière spatiale et qui va également travailler en très étroite relation avec le CNES, puisqu'aujourd'hui, c'est le CNES qui opère nos satellites militaires. Et demain, nous aurons des opérateurs militaires pour opérer nos propres
alors,
satellites.
Parce qu'il y a quand même tous les passionnés et de la question aéronautique et peut-être les militaires concernés attendent cela. Vous dites qu'il y a un nouvel insigne, nouvelle arme, nouveau logo. À quoi il va ressembler? Il va y avoir un mélange de fusées, d'avions,
je ne vais pas dévoiler avant l'heure ce nouveau logo, mais vous l'observerez bien, vous verrez qu'il est assez fidèle au logo actuel de l'armée de l'air, mais vous savez, c'est comme dans le jeu des 7 erreurs, il y a des petits changements.
Alors, il y a une arme nouvelle qui fait son apparition dans les cartons des armées de plusieurs pays, ce sont les robots tueurs. Ça fait l'objet d'ailleurs en France d'un rapport parlementaire cet été avec des questions éthiques et politiques qui sont soulevées. Est-ce qu'un pouvoir démocratique peut confier des missions militaires à l'intelligence artificielle sans au risque d'en perdre le contrôle?
En quelques mots, Florence Parly.
Alors moi, je crois deux choses. D'abord, il faut absolument investir dans toutes ces techniques de l'intelligence artificielle parce que ce sont des techniques de rupture qui vont changer fondamentalement la donne des technologies et donc qui peuvent, si on ne s'y investit pas, mettre en cause notre supériorité militaire et opérationnelle. Mais je crois fondamentalement qu'il faut que l'homme reste en permanence dans la boucle. Et c'est pour cela que face à ce débat qui a eu lieu sur les robots qu'on appelle les robots tueurs, moi je ne veux pas de robots tueurs et j'ai souhaité qu'il y ait un comité d'éthique créé au sein du ministère des Armées pour nous guider dans nos réflexions, dans nos doctrines, afin qu'on ne perde pas, qu'on ne se laisse pas, comment dire, attraire sans arrêt par les technologies et que nous gardions en permanence à l'esprit ce que sont nos valeurs et ce qui doit nous guider.
Damien Fleurot.
Emmanuel Macron qui doit prononcer vendredi un discours à l'occasion des 150 ans de la République pour réaffirmer ses valeurs. On sait qu'il y a un projet de loi sur la lutte contre le séparatisme qui est en préparation. Mais à droite, on entend les leaders Bruno Retailleau, Valérie Pécresse, Xavier Bertrand dire « La sécurité, c'est la faillite du quinquennat d'Emmanuel Macron ». Que leur répondez-vous ?
Je leur réponds que ce quinquennat n'est nullement terminé. Je leur réponds que sans doute le président de la République aurait eu la tâche plus simple si les gouvernements qu'il avait précédés et au premier chef ceux qui profèrent ce type de critique n'avaient pas été les premiers à tailler sévèrement dans les effectifs des forces de sécurité, de police et de gendarmerie. Donc je pense qu'il faut un peu d'humilité en la matière et je crois très profondément que tout doit être fait pour que la solidarité, l'esprit de concorde, ce qu'on appelle le pacte républicain, soit restauré dans notre pays. Et c'est une de mes grandes satisfactions personnelles au sein de ce ministère des Armées que j'essaye de servir du mieux que je peux, c'est de voir à quel point ces valeurs humaines de solidarité, cette capacité aussi d'intégration, cette capacité à proposer des parcours, y compris à des jeunes qui n'ont ni la bonne couleur de peau, ni les bonnes qualifications, et bien pourtant de leur proposer un parcours de vie qui soit un parcours solidaire et républicain. Et c'est une grande fierté, je crois, que les armées ont, à juste titre, que d'être ce grand creuset républicain qui est à la fois facteur d'intégration et de promotion sociale.
Vous dites bonne couleur de peau pour ceux qui contestent effectivement la couleur de leur peau. Vous venez, vous, du Parti Socialiste, vous avez travaillé avec Lionel Jospin à Matignon. En cours de mandat, au fond, on a vu Emmanuel Macron devenir beaucoup plus centre-droit, s'attacher à cet électorat. Comment rattacher et faire revenir la gauche qui a aidé Emmanuel Macron en 2017?
Vous savez, moi je suis engagée depuis 2017 auprès du président de la République parce que le président de la République, dans sa campagne électorale, a dessiné un projet de transformation pour notre pays, auquel j'adhère totalement. C'est un projet de transformation qui est destiné à permettre de mettre un terme à des rigidités qui empêchent notre pays d'avancer dans tous les domaines, que ce soit économique, que ce soit sociétal, que ce soit social. Et nous n'avons pas le temps de reprendre toutes les réformes que le gouvernement d'Édouard Philippe, poursuivi par celui de Jean Castex, met en œuvre sur le plan social. Mais je peux vous dire que je me retrouve totalement dans ces réformes. Quand il s'agit d'augmenter le minimum vieillesse, quand il s'agit alors, réinvitez-moi.
Non, c'est vrai, on va vous réinviter pour la politique, parce qu'effectivement, là, on n'aurait pas le temps, il y aurait une autre émission passionnante à faire. En tout cas, merci, c'était le grand rendez-vous de Florence Parly. Merci à Nicolas Barré, Damien Fleurot, que je retrouve avec plaisir. À dimanche. Europe 1.